I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il faut être cohérent avec soi-même. Et je pense qu'une personne qui est élégante est quelqu'un qui est cohérent avec soi-même, qui du coup va s'habiller en cohérence avec soi-même et qui est bien en fait.
L'épisode que vous allez entendre est réalisé en partenariat avec DIM. Cette marque iconique, qui vient de fêter ses 60 ans, vous offre à cette occasion 20% de réduction sur l'ensemble de son e-shop et dans toutes ses boutiques, grâce au code chiffon.
J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
Je me suis battu depuis 2 ans pour ces robes, parce que je trouve ça indécent.
Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse.
C'est affreux tout ça.
Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon,
sape,
chiffon, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous emmène en mer avec celui que l'on surnomme le petit prince des océans. Du haut de ses 36 ans, le skipper François Gabart cumule les victoires depuis son plus jeune âge. En décembre 2017, il a battu le record du Tour du Monde en solitaire en seulement 42 jours, 16 heures, 40 minutes et 35 secondes. C'est donc un immense honneur pour moi de le recevoir au micro de Chiffon. Et vous verrez que j'ai 1000 questions à lui poser sur son dressing de marin. Bonjour François.
Bonjour.
Bon, pour commencer cette interview chiffon, on va quand même rappeler aux auditeurs qui ne te connaissent pas quelques-unes de tes victoires. Vendée Globe 2013, Transat Jacques Vabre 2015, Route d'Europe 2014, Transat Anglaise 2016 et j'en passe. Et la dernière Route du Rhum qui, moi, m'a brisé le cœur pour toi en 2018, où tu as fini à la deuxième place derrière Francis Joyon, c'est
tout
ça?
Tout à fait.
À 7 minutes près.
Pas grand-chose. Hein.
Comment as-tu réagi?
Comment j'ai réagi? Bah, c'est vrai que c'est dur parce que tu t'essayes toujours. Je suis compétiteur, donc j'essaie de gagner.
T'étais en tête, hein, c'est ça.
J'étais en tête du départ. Dimanche, je pense que je passe en tête au bout d'une heure de course et je suis en tête 99,9% de la course. Et donc je me fais doubler en effet à une heure de l'arrivée sur une course qui va durer à peu près une semaine. Donc ouais, je suis en tête tout le temps, mais ça sert à rien d'être en tête avant, hein. Il faut être en tête au moment de couper la ligne, voilà. Et là j'y étais pas pour quelques minutes. C'est à la fois il y a un petit côté rageant et en même temps ce qui s'est passé, en fait, il s'est passé plein de choses sur cette course. J'ai vécu un...
Je crois que t'as eu des soucis.
J'ai eu des soucis techniques qui auraient pu m'entraîner dans un abandon, ce qui est arrivé pour pas mal de mes camarades, pas mal des favoris de cette course. Donc quelque part, je me disais, j'ai déjà eu la chance de traverser, j'ai eu la chance de vivre une compétition qui est magnifique avec Francis jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, et j'ai tout donné, donc j'avais pas de regrets en fait, parce que avec tous les éléments qui se sont passés, je me suis battu jusqu'au bout et donc voilà, donc j'étais fatigué, forcément, parce que à la fin d'une course comme ça, on est fatigué. Forcément, un petit peu déçu et en même temps heureux d'avoir pu vivre ça avec une intensité juste incroyable jusqu'au bout.
À la presse te surnomme, je note, l'extraterrestre, le Mozart de la voile, le prodige de la voile, le chevalier des mers. Tu les prends comment, toutes ces éloges? J'ai beaucoup ri avec l'extraterrestre. C'est ça, pas mal.
C'est pas mal. J'essaye de. Alors, c'est positif, donc c'est très bien. Et voilà, faut pas. Je pense qu'après, il faut prendre un peu de distance par rapport à tout ça, parce que justement, après, il y en a eu pas mal des surnoms comme ça, mais finalement, il n'y en a pas vraiment un qui ressort et qui reste. Donc ça me va plutôt bien quand en fait, finalement, ça change.
En fait, c'est pas que j'écoute pas, parce que ça serait mentir, mais j'essaye de prendre un petit peu de distance avec tout ça. Pour le moment, ça a l'air d'être plutôt positif, donc je me dis qu'il faut pas, mais pas de raison de s'inquiéter.
J'ai constaté aussi qu'il y a une vraie gabarmania. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai demandé à ma communauté sur Instagram de te poser des questions via ce micro. Et quel engouement! Alors, tu auras les questions en fin d'interview, mais j'ai quand même noté une chose. Il paraît qu'il y a une crêperie à la Forêt Fouesnant qui propose la crêpe, la Fanch, Gab. Fanch, c'est François en breton.
Exactement.
C'est la crêperie chez Marie.
Oui.
Et une des auditrices te demande, n'est-ce pas ça l'élégance d'avoir une crêpe à ton nom qui associe deux classiques de la crêpe, jambon fromage, avec une pointe d'originalité, la fondue de poireaux.
Ah ouais, bah ça c'est la classe absolue. Hein. Ouais, voilà, avoir sa crêpe, je veux dire, voilà, c'est... Non, faut bien comprendre, dans le microcosme forestois, dans ce petit village d'irréductibles bretons qui font de la voile, donc la Forêt Fouesnant, qui est quand même une espèce de centre névralgique de la course au large, où c'est un village, hein, je crois que c'est une ville, c'est à partir de 2000 habitants, je crois qu'on parle de ville, mais si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 2700 ou 2800 habitants, donc c'est vraiment pas très très grand. Et il y a les grands marins, donc le premier à avoir eu sa crêpe chez Marie, c'est Michel Desjoyeaux, la Michdej, donc c'est une complète assez classique. Après, il a gagné plein de courses, parce que donc le principe, la règle, c'est qu'il faut gagner une grande course, donc c'est Marie,
donc,
la crêpière,
crêpe.
Qui décide, c'est le juge de paix. Voilà, mais il faut gagner une grande course, quand on gagne une grande course, on a le droit à sa crêpe. Donc ma première grande course, ça a été le Vendée Globe, et donc à l'issue Vendée Globe. Gagner le Vendée Globe, c'est intéressant, mais bon, sans plus, par contre, avoir sa crêpe chez Marie, ça c'est un privilège absolu.
Donc, si vous passez par la Forêt Fouesnant, vous allez chez Marie demander la Fanch Gab. Mais c'est toi qui as choisi le contenu ou pas?
Marie décide tout là-dessus, si on a le droit à notre crêpe ou pas. On donne des idées, et après, elle complète. Mais moi, j'en suis assez fier de ma petite Fanch Gab. J'en ai une nouvelle en dessert maintenant qui est assez originale.
Ah, un scoop.
Je suis pas allé à... Alors je sais même plus comment elle s'appelle, donc ça c'est assez terrible, mais je sais même plus le nom de l'alcool, elle est flambée avec un alcool dont j'ai déjà oublié le nom, donc c'est assez terrible, j'en fais une très mauvaise publicité. mais elle est encore plus originale celle-là, j'en suis pas peu fier non plus, je suis très content.
Bon alors, tu sais que dans Chiffon, on chiffonne. Qu'en portes-tu comme fringue quand tu pars sur une transat?
Alors, on a une notion, nous marins, en course, ce qui n'est pas forcément le cas quand on part en croisière ou en voyage en bateau, mais en course, on est un peu, on va vers l'essentiel en fait. Donc on est vraiment, on se concentre sur ce dont on a besoin. Donc c'est assez rudimentaire. J'ai deux partenariats au niveau des vêtements, un partenariat avec TBS, je suis habillé avec TBS à terre, et sur l'eau je suis habillé en cotaine, les cirés cotaine, donc qui sont étanches, espèce de gain d'étanchéité, parce que ce qu'on veut surtout quand on est sur le bateau, c'est se protéger de l'eau de mer, de l'humidité, et du sel surtout en fait, parce que à la limite l'eau c'est pas très grave, mais le sel ça c'est assez embêtant. Donc voilà, on essaye d'aller à l'essentiel, et j'ai la chance avec TBS et cotaine que ce soit à terre ou sur l'eau, d'être toujours bien équipé.
Ouais, mais alors, cotaine, c'est le côté technique, j'imagine. Mais tout ce qui est cagoule, tu portes aussi des capuches,
capuches, en fait. Bonnets, tout ça, ouais, gros, ouais, c'est à peu près. Bon, j'ai aussi. Cotaine fait quand même vraiment tout le. La protection du marin.
Mais qu'est-ce que t'as en dessous? T'as un jean?
Non, après, on est vraiment sur des premières couches, qu'on appelle des premières couches techniques. Là, c'est des sous-couches. Donc, alors, c'est pas d'une élégance assez extraordinaire. Enfin, c'est vraiment du collant. Ça colle à la peau.
Oh là là, tu vas casser le mythe. Hein.
C'est vrai que c'est pas forcément très. C'est pas forcément saillant ou très joli. Là, ce qu'on veut sur le bateau, c'est que ça soit efficace. C'est-à-dire qu'on n'ait pas froid. Qu'on puisse tourner les manivelles, manœuvrer, et ça marche plutôt bien, donc je suis content.
Quand tu as battu le record du Tour du Monde en solitaire, tu dormais combien d'heures par nuit?
Alors, je peux répondre très précisément, 3h09. C'est-à-dire que je suis pas tous les jours. En fait, ce qui se passe sur le bateau, on dort pas beaucoup sur le bateau. Et donc, dès que je vais me coucher sur le bateau, j'appuie sur un bouton. Dès que je me réveille, j'appuie sur un bouton. Ça me permet d'enregistrer temps de récupération. Et ça me permet de voir à peu près où j'en suis. Et donc, du coup, vu que j'ai toutes ces données-là, à la fin du Tour du Monde, donc sur 42 jours, j'ai dormi en moyenne 3h09 minutes par 24 heures. Ce qui est pas beaucoup. C'est pas énorme, mais c'est suffisant pour tenir le coup et c'est suffisant pour continuer à être performant sur l'ensemble du tour du monde. Il y a des moments où on va dormir plus, hein, probablement certaines 24 heures où j'ai peut-être pu dormir 12, 13, même presque plus de 12 heures, je pense, sur certaines périodes de course où le vent est régulier, il n'y a pas besoin de manœuvrer. Donc, dans ce cas-là, on essaie de récupérer parce qu'il y a par contre d'autres moments, si la moyenne est à 3h09 minutes, j'ai fait quelques périodes de 24 heures où j'ai dû dormir quelques minutes par-ci par-là, mais c'était pas très très long. Donc, on accumule une fatigue assez colossale et il faut arriver dès qu'on peut à essayer de se reposer, mais c'est pas si évident que
ça. Et tu arrives à te changer sur le bateau? C'est-à-dire, tu dors? Tu prends ton petit déjeuner ou tout est complètement...
Alors, je dors dans les mêmes... Je ne me déshabille pas pour dormir. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la cabane du trimaran Massy, donc espace de vie, est à la même température à peu près que l'extérieur. Donc, il n'y a pas de chauffage. L'idée, surtout, c'est de protéger de l'humidité. Donc, on est au moins au sec. Et j'ai la chance sur le trimaran massif d'être vraiment bien protégé. Donc ça c'est plutôt chouette. Par contre, voilà, il y a une continuité parfaite entre je suis dans le cockpit, je tourne les manivelles, je suis dans ma banette et je dors. Et parce qu'on dort quelques secondes, parfois on se réveille et hop, on se lève et puis dans la demi-seconde ou dans la seconde qui suit, il faut être aux manivelles, à la barre. Je dors avec les bottes, je dors avec le ciré quand il fait froid. Et du coup, on se change pas comme on pourrait se changer dans une vie normale où on va s'habiller le matin. On peut même changer d'habit dans la journée. Alors là, il peut m'arriver de changer d'habit, pourquoi pas plusieurs fois par jour en fonction des conditions. Mais il n'y a pas du tout de rythme comme on peut avoir sur la vie terrestre.
Mais comment tu arrives à conserver tes vêtements au sec? J'imagine que tu me parlais du sel, mais l'humidité, ça doit être très très difficile aussi.
Ah, c'est vrai qu'on est dans un milieu marin, un milieu humide, hein, donc c'est vrai que c'est un milieu un peu extrême. Encore une fois, j'ai quand même la chance à bord du trimaran massif d'avoir un espace de travail.
C'est le nom de ton trimaran en fait,
ouais, un massif. Le bateau, c'est le nom du bateau.
Tu l'as conçu aussi, non? C'est pas
ouais,
parce
ouais,
que tu es ingénieur, il faut le dire aussi.
Ouais, j'ai une équipe autour de moi. On est toute une équipe à travailler sur ce bateau. On a eu la chance de partir d'une feuille blanche. On a conçu, imaginé. Alors pas que nous, on a travaillé avec des architectes et constructeurs de bateaux. Mais c'est quand même nous qu'avons piloté toute cette conception. Et il se trouve que un de mes objectifs, c'était vraiment de pouvoir contrôler le bateau, de pouvoir manœuvrer les voiles dans un cockpit qui était protégé et sécurisé. Protégé, c'est-à-dire qu'il est protégé du vent apparent, il est protégé des paquets de mer qui peuvent passer sur le bateau, et il est sécurisé dans le sens où, si le bateau se retourne, on est dans un espace qui est fermé. Et ce qui fait qu'on peut pas se retrouver projeté en mer si le bateau se retourne. Donc, c'était pour moi un élément et de performance et de sécurité qui était primordial. Du coup, je suis 98% du temps, si ce n'est plus, relativement protégé des paquets de mer. Donc je me fais pas trop mouiller à bord du bateau. Donc par rapport à d'autres bateaux qui parfois peuvent aller moins vite, mais qui sont beaucoup moins confortables, j'ai la chance d'être dans des conditions qui sont pas si mal que ça pour la vie de tous les jours.
As-tu un vêtement porte-bonheur que tu emportes à chaque fois?
Pas de porte-bonheur. J'essaie méticuleusement de ne pas être superstitieux parce que ça porte malheur.
Pour les marins, ça porte malheur?
Non, les marins, de manière assez historique, sont très superstitieux. Il y a beaucoup de superstitieux dans le milieu de la marine. Moi, je suis parti sur le principe que c'est déjà compliqué de faire du bateau. Hein. Faut faire avec le vent, avec les vagues, avec plein de choses. Donc, si en plus, faut faire avec les superstitions, on s'en sort plus. Donc, je suis absolument pas superstitieux. C'est trop compliqué. Il y a trop de superstitions. En plus, c'est vraiment, il y en a un paquet. Donc,
tu peux en citer une, par exemple, assez courante chez les marins?
Le lapin.
Il n'y a pas une histoire avec le lapin, aussi, ça,
le lapin est banni à bord des bateaux. Alors, pourquoi le lapin est banni à bord des bateaux? Parce qu'à l'époque, des bateaux en bois au 13e, 14e, 15e siècle. Donc les lapins étaient amenés vivants pour avoir de la nourriture fraîche sur des voyages qui pouvaient durer des mois. Sauf que les lapins, c'est des rongeurs et que ça mange un petit peu les bouts, ça mange un petit peu le bois. Et donc je crois qu'il y a eu quelques naufrages, ou quelques, en tout cas, grosses difficultés techniques à bord du lapin. Donc voilà, c'est parti de là et depuis le lapin est porte malheur. Mais c'est très fort. Enfin, il y a certains marins. Aujourd'hui, si tu dis s'il y a un. Enfin, bon, il n'y a pas de lapin.
Tiens, j'ai un porte-clés pour voilà, pas de lapin.
S'il y a un lapin ou si même on évoque le nom lapin, c'est une catastrophe. Non, donc moi, je suis absolument là-dessus. Je peux. Enfin, il n'y a pas vraiment de raison d'amener lapin, mais par exemple, si j'amène de la nourriture, ça peut être du lapin ou. En tout cas, ça me.
Donc, t'as rien quand tu essayes de battre un record ou autre.
J'essaye de rien avoir superstitieux. Ce qui ne veut pas dire que, par contre, on ne part pas avec. On est obligé
une
d'avoir des
dans
éléments.
Tu dis, voilà, celle-là, j'ai quand même gagné.
Non, j'en ai pas une. J'essaie de prendre un peu du recul là-dessus parce que, toujours pareil, c'est si jamais, pour X raisons, un jour tu l'as pas et que ça te déstabilise, c'est compliqué. Donc je préfère prendre un peu de distance là-dessus. Par contre, c'est vrai. Alors l'inverse, par contre, est assez intéressant. C'est que les vêtements que j'ai utilisés, par exemple, les vêtements du Vendée Globe, mon premier tour du monde, ça remonte un peu maintenant. C'était en 2012, donc c'est il y a quelques années. Mais alors il y a des vêtements que j'ai pu donner à des associations parce que c'est vrai qu'elles ont une valeur quand même. Ces vêtements. Donc j'ai donné des vêtements à des associations, il y a eu des ventes aux enchères, il y a eu pas mal de choses comme ça, mais j'ai quand même, il m'en reste encore quelques-uns. Et si par exemple aujourd'hui je fais du bateau, mais plus à titre soit à l'entraînement, soit à titre perso, j'ai un petit bateau de croisière. Je sais que sur le bateau de croisière, par exemple, j'étais parti, j'avais à bord du bateau, j'avais les vêtements du Vendée, parce que voilà, c'était quand même, c'était peut-être pas ceux qui étaient les en meilleure forme, c'était peut-être les plus usés, c'était peut-être les. Mais voilà, là on rentre dans le côté qui est plus la compète et la performance, on rentre dans le côté de
nostalgie.
D'être en mer où il y a.
C'est
y a
nostalgique un, aussi,
ouais,
quelque
c'est
part.
C'est un petit côté nostalgique parce que c'est vrai qu'ils ont. J'ai fait un petit bout de chemin avec cela et je suis content
dans
de
ces vêtements, il y a quoi? Il y a le ciré, il y a des pulls marins.
Bah le ciré, puis encore une fois, après c'est
tout ce
qu'il y a dessous, quoi, pour être chaud, grosso modo, pour. Très, très simplement, on essaie toujours d'avoir une couche extérieure la plus étanche possible et respirante, et ensuite les couches dessous pour avoir chaud.
Bon alors, est-ce que le port de la marinière est obligatoire pour un marin?
Alors non, j'ai pas de marinière.
Est-ce que tu portes des marinières?
Je
non
sais même pas si j'en ai une à la maison. Ça, il va falloir que j'en parle avec TBS, justement, essayer d'avoir une marinière. J'ai pas de marinière, non, j'ai pas de marinière. Donc j'en
et
ai
les,
pas à bord,
les bons pulls marins en laine qui grattent.
Mais non, mais ça, c'était avant, ça. C'était avant. Donc,
j'ai ouï dire que tu n'aimes pas les pulls marins qui grattent.
Ah, bah si ça gratte, non, j'aime pas par définition. après, les pulls marins, j'aime bien. Mais si ça gratte, je suis assez. Pragmatique là-dessus. Pour moi, il y a quand même une notion de confort qui est importante. Ce qui ne veut pas dire qu'on faut se sentir bien et se sentir bien, ça veut aussi se sentir bien dans l'aspect visuel. Mais c'est aussi le confort et c'est vrai que ce curseur-là, c'est celui qu'on met en compétition encore une fois qu'on met en avant. Mais voilà, j'aime bien. Il faut que je sois bien dans mes vêtements. Ça, c'est super important.
Et quand tu arrives sur le, comment on appelle ça, au port, à la fin d'une course, il y a tous les gens qui attendent avec les fumigènes, les bouteilles de champagne, etc. Juste avant, est-ce que tu dis pas, non, mais là, il faut que je m'arrange un petit peu, que je me peigne, que je me regarde dans un miroir.
Non, alors j'ai quand même.
Je te dis, on chiffonne. Hein, c'est très
superficiel. Ouais, on peut chiffonner. Mais si, j'ai un petit, j'essaie. Alors, je pense qu'on veut dire, c'est un peu par respect pour. Les gens qui vont m'accueillir, pour ma femme, pour mes enfants, ou pour les sponsors et les gens qui sont là à l'arrivée, je fais en sorte quand même d'avoir j'ai tous les vêtements en fait, ils sont dans des sachets sous vide pour que ça soit bien étanche. J'ai plein de sachets en fonction de la longueur des courses. Évidemment, c'est pas la même chose quand si on part sur un tour du monde ou sur une transatlantique. Et en général, j'ai le dernier sachet, c'est le sachet de l'arrivée. Qui fait que j'essaie d'avoir des vêtements à peu près propres.
Enfin, les vêtements sont propres. Blanche. Non, je plaisante.
Voilà. Non, mais j'essaie d'avoir d'avoir quelques vêtements propres. Et donc, j'ai, dans la mesure du possible, alors si j'ai pas le temps de les enfiler juste avant l'arrivée, au moins je sais normalement que juste après, j'ai des vêtements propres pour camoufler la misère derrière, parce que forcément sur un bateau on peut pas se laver aussi facilement que ce qu'on peut faire à terre, donc on essaye au moins de cacher ça. Et j'ai presque envie de dire c'est par respect pour les gens qui t'accueillent. Je trouve que c'est quand même sympa de leur proposer ça.
Et sur terre, alors on va parler de la terre maintenant. Quel est ton style au quotidien?
Mon style au quotidien, je saurais pas si j'ai un style. C'est un style qui reste sportif quelque part, je pense, parce que voilà, je fais beaucoup de sport.
Tu surfes beaucoup?
Je fais beaucoup de sport nautique, donc j'adore le surf, le paddle.
Oui, j'ai vu que tu préfères être sur l'eau que dans l'eau.
Oui, plutôt sur l'eau que sous l'eau. Ouais, j'avoue que j'adore la mer, j'adore l'eau, j'adore la glisse. Je suis fasciné, alors je sais pas si je suis attiré, je suis fasciné par l'élément liquide sous-marin, mais c'est un milieu que je connais très mal, dans lequel je suis pas forcément très à l'aise. Autant au-dessus de l'eau, je me débrouille bien, autant dans l'eau, je suis pas à l'aise. Donc et en même temps, c'est un milieu qui me fascine, forcément, parce que je passe ma vie juste au-dessus, mais ça me fascine sans forcément m'attirer, parce que je crains un petit peu. Et donc voilà, donc je suis absolument pas aquatique. Évidemment, je sais nager. C'est toujours un plaisir d'aller...
Avant, certains marins pêcheurs ne savaient pas nager,
ouais. Et puis c'était parfois une forme de survie quelque part, parce que en général, même si on sait nager, si on tombe à l'eau quand on est sur un bateau, on a beau savoir nager, si on tombe au large, même si on est un champion de natation, c'est pas forcément simple de rattraper un bateau. Les bateaux vont beaucoup plus vite que les meilleurs nageurs mondiaux, et assez rapidement on est quand même dans des zones assez éloignées de la terre, donc en fait finalement savoir nager, ça va pas forcément aider. Alors ça, il peut arriver dans des problèmes, enfin, cas d'un chavirage, dans des conditions un peu extrêmes, où avoir une aisance aquatique peut aider quand même. Donc, je dis pas que c'est complètement inutile, mais en tout cas, la natation à proprement parler, elle est pas forcément indispensable. Donc voilà, c'est pas mon milieu. Par contre, au-dessus de l'eau, ouais, là, je me sens bien.
J'ai entendu dire aussi que tu skiais très bien.
J'adore la montagne. J'adore la montagne. C'est deux univers, la mer et la montagne, en fait, que j'aime beaucoup. Alors, la montagne, malheureusement, j'y vais assez peu, assez rarement. Alors, moi, je suis charentais d'origine, donc un pays complètement plat. Je vis aujourd'hui, maintenant, depuis un peu plus d'une dizaine d'années en Bretagne. Territoire absolument extraordinaire, génial, dont le principal défaut est d'être loin des montagnes. Et donc voilà, j'y vais pas souvent, mais j'adore ce milieu-là, j'adore cet univers, j'adore les gens, les montagnards. C'est vraiment un milieu que j'aime beaucoup, mais que je connais assez peu. Enfin, en tout cas, j'y vais assez rarement.
Tu as fait des études à Lyon?
J'ai fait mes études à Lyon, mais paradoxalement, j'étais en sport-études, j'étais assez peu souvent à Lyon. Je pense que c'est une période de ma vie où je suis allé le moins à la montagne. Parce que je faisais de la voile, j'ai commencé à faire de la voile, alors pas professionnelle, mais en tout cas je faisais de la voile olympique à l'époque, quand je faisais mes études à Lyon, donc j'allais souvent à Marseille, je voyageais beaucoup partout en Europe et dans le monde, et j'ai commencé à faire de la voile très sérieusement à cette période-là, ce qui fait que j'étais étudiant, j'avais pas un rond, que du coup dès que je partais faire du bateau, j'étais pas souvent à Lyon, vu que pas ou peu d'argent quand on est étudiant, la montagne ça peut vite être un petit peu cher, et en fait c'est les années où j'habitais une partie de l'année, parce que j'étais quand même pas très souvent, mais les moments où j'y étais, je profitais assez peu de la montagne, parce que j'ai, même si je suis originaire des Charentes, j'ai la chance d'avoir des parents qui se sont rencontrés à la montagne. Ils sont pas montagnards, mais ils se sont rencontrés dans les vacances de ski, et ils aiment la montagne. Donc j'ai eu la chance, comme beaucoup de beaucoup de jeunes d'aller au ski, voilà, une semaine par an. C'était à peu près ça pendant 15 ou 20 ans. J'allais une semaine par an au ski, ce qui est à la fois pas beaucoup et à la fois déjà une chance extraordinaire, parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Donc voilà, ça m'a permis de découvrir un petit peu ce milieu-là, et pendant mes études, donc j'y ai quasiment pas. Et puis là, maintenant, depuis que je fais de la voile professionnelle, depuis que je gagne ma vie, depuis que je peux prendre quelques jours de vacances dans l'hiver, j'essaye de me rattraper, j'essaye d'y aller dès que je peux, mais ça reste assez rare. J'y suis allé à peine une semaine cet hiver, donc c'est bien trop peu à mes yeux.
Tu parlais justement de tes études. Comment tu t'habillais quand tu étais étudiant? Est-ce que ça comptait pour toi, ou alors c'était le dernier de tes soucis?
Or, c'était pas le dernier de mes soucis, mais c'était pas le premier, en tout cas, ça c'est sûr. Ces mêmes raisons. Un, déjà, c'est que j'étais tellement, en fait, à ce moment-là, investi dans le sport, passionné par la voile, que c'est vrai qu'on est, voilà, pour un sportif, ça va pas être le. C'était pas ma priorité. Comment je m'habillais à cette époque-là, je pense à peu près comme je m'habille aujourd'hui, donc tendance quand même un peu sport, un peu outdoor, dans le sens où voilà, que ça soit la mer ou la montagne, j'aime bien être dehors. Je suis quelqu'un qui aime être dans la nature, et donc quelque part il faut pouvoir grimper, il faut pouvoir bouger, il faut pouvoir faire passer un grain sans être trempé, voilà. Mais vêtements doivent remplir ces critères-là très très fonctionnels. C'est très pragmatique finalement. Tout ça, l'utilisation fait qu'il faut pouvoir assez facilement se promener, pouvoir courir, voilà, dans la rue. Là, on est à Paris aujourd'hui. Voilà, je peux aller. Alors, je vais pas aller courir là tout de suite, mais voilà, je peux me déplacer. Alors, je peux aller courir si je suis en retard pour aller récupérer mon train. Voilà, je peux bouger, et ça c'est assez important à mes yeux.
Quel regard portes-tu sur la mode? En fait, c'est pas ton. Est-ce que tu regardes les fashion
week? C'est pas mon univers. Après, je pense finalement. Alors, c'est peut-être avec l'âge. Il y a une côté l'esthétique qui, quand j'étais jeune, alors j'ai fait une école d'ingénieur, je suis quelqu'un d'assez rationnel, et c'est vrai que l'esthétique m'était un petit peu j'avais pas de recherche esthétique. Je dis pas que j'en ai
l'association des couleurs au moins quand même.
Oui. Oh, je pense que j'étais quand même pas complètement complètement à la rue, mais par contre la notion d'esthétique, en fait, mais est plus importante aujourd'hui à mes yeux, et j'accorde de l'importance à l'esthétique. Alors, dans mon métier, même parce que je reste persuadé aujourd'hui qu'un joli bateau est un bateau qui va vite, je me rends compte qu'en fait la nature fait que dans l'esthétique, il y a souvent justement cette efficacité que je recherche. Et en fait, je me rends compte que faire de belles choses, au sens esthétique du terme, et ben ça a une valeur, ça a du sens, et du coup, s'habiller, c'est aussi essayer de s'habiller joli, c'est aussi essayer de de faire que les choses soient belles autour de soi et sur soi. Et est-ce que j'y arrive, j'en sais rien, mais en tout cas c'est quelque chose qui m'est plus important aujourd'hui que quand j'étais jeune.
Est-ce que pour toi c'est un moyen de refléter sa personnalité?
Oui, forcément, et heureusement d'ailleurs. C'est vrai qu'on on s'habille tous différemment, et on est et les vêtements socialement, c'est quand même quelque chose qui nous, on peut passer des messages avec les vêtements. Il y a certains vêtements d'ailleurs où concrètement il y a des choses écrites sur les vêtements. Des fois il y a des phrases, des mots, donc. Quand on porte un t-shirt avec marqué en gros un mot, c'est un message. Enfin, c'est pas anodin. C'est quelque chose qu'on veut dire. Et en effet, après, on est un être social, on a des interactions, et c'est vrai que les vêtements sont quelque part un peu la frontière entre nous, les choses qu'on veut cacher, notre peau, notre corps. Parce que alors, je suis assez pudique, je vais pas me balader tout nu. Et
tu aurais quelques
les vêtements...
problèmes dans la rue à Paris.
Oui, heureusement, je ne sais pas, mais oui, non, c'est assez, a priori, ça fonctionne plutôt bien de porter des vêtements. Mais du coup, les vêtements sont quelque part, c'est un peu l'interface,
c'est
la frontière entre,
entre
nous et les autres, et c'est aussi un marqueur social. Dans un côté qui peut être négatif, je pense à l'école, par exemple, parce que alors, je suis absolument pas pour l'uniforme. D'une manière générale, j'aime pas trop ce concept-là. Mais c'est vrai que parfois, je me pose la question. Je trouve elle assez légitime à l'école, où faut arriver à la fois à ce que l'enfant puisse se démarquer, enfin exprimer ce qu'il est, et du coup pouvoir choisir ses vêtements. Je trouve que c'est super important. Et en même temps, de pas créer des fractures et des distances entre les enfants, parce que voilà, je me rends bien compte qu'aujourd'hui un adolescent, il y a forcément des jeunes qui peuvent s'acheter certains vêtements, d'autres qui peuvent pas, et ça peut créer des distances. Donc clairement, c'est pas bien. Je pense qu'à l'école, il y a certains moments de la vie où ça serait peut-être pas mal d'avoir des choses un peu plus simples, j'ai envie de dire. Mais en même temps que les enfants, enfin qu'on puisse tous pouvoir un peu s'exprimer par si on veut s'habiller d'une certaine couleur, d'une certaine façon, d'une manière différente, qu'on puisse avoir le choix de pouvoir le faire, ça me paraît vraiment important.
Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais ?
Faut jamais dire jamais dans la vie.
Et le port du costume, ça t'arrive ou tu te sens déguisé ?
Alors, je suis assez...
Toi qui aimes être à l'aise.
Ouais, j'ai la chance de pas avoir la nécessité de le porter très souvent. Parce que d'ailleurs finalement ce que je trouve assez chouette, c'est que si je mets un costume, c'est souvent pour grosso modo, et ce qui est le cas quand même pour majorité de personnes, hein, c'est pour les grandes occasions, c'est pour les fêtes, c'est pour un mariage, c'est pour c'est des moments qui sont assez exceptionnels, et j'ai la chance à ce moment-là en effet d'être c'est pas comme la vie quotidienne, la vie du boulot. Je trouvais ça terrible de devoir être en costume cravate toute la semaine et sur un moment et à ton mariage d'être habillé de la même façon. Je trouve ça horrible. Alors que moi quand je mets un costume, en effet c'est la fête, il se passe quelque chose quoi. Enfin
tu te prends pas la tête, tu dis pas oh là là, il faut que je mette un costume. Par exemple si ce soir t'es invité à l'Élysée.
Non, c'est un plaisir. Non, c'est vraiment. Alors j'ai pas 350 costumes à la maison. Si on m'invitait souvent, si je devais porter souvent le costume, malheureusement, on se rendrait compte que c'est un peu tout le temps le même. Mais c'est des moments qui sont assez chouettes parce que c'est original en fait. Voilà. Enfin pour moi dans mon quotidien en fait.
Si ton épouse te dit je n'aime pas ta tenue, est-ce que tu files te changer ?
Oui, parce que finalement, je pense qu'il faut être. Pourquoi on... Alors, enfin, ça va dépendre peut-être des raisons, mais quelque part, on s'habille aussi pour faire pour les autres. Enfin, c'est quelque chose de social et la première personne autour de soi, pour moi, c'est ma femme, mes enfants. Et voilà, on veut toujours plaire à sa femme. Donc, et d'ailleurs, ma femme est quasiment, est souvent présente dans. C'est rare que je vais pas faire du shopping tout seul, ça c'est.
Tu vas avec elle.
Ouais, j'y vais avec elle parce que et finalement si je dois choisir, je préfère autant avoir des vêtements dans lesquels je me sens bien évidemment. Je vais pas porter des vêtements. Alors je crois que j'ai quand même une certaine liberté. Je vais pas porter des vêtements que pour lui faire plaisir que je trouve moche. en revanche, si je trouve que c'est chouette de pouvoir porter les choses qui lui plaisent parce que finalement elle me voit comme ça et je suis content de lui plaire.
Et à contrario, tu te mêles de ses achats vestimentaires ?
Non, parce que finalement je me rends compte que ce qu'elle porte ça me plaît beaucoup et ça marche bien comme ça.
Elle va être contente si elle écoute le podcast.
Ouais, j'espère.
Quel est ton dernier achat ? Fringue. Hein.
Mon dernier achat fringue. Alors ça remonte à une éternité. Pour la simple et bonne raison que, comme je disais, j'ai la chance d'être habillé par TBS. Depuis maintenant quasiment 10 ans, on en parlait tout à l'heure.
Tu choisis quand même tes vêtements chez
oui,
eux.
Oui, ouais. je choisis, mais voilà, j'ai la chance d'être, d'avoir ces vêtements-là. Donc, ça fait quelques temps que j'en achète pas. Peut-être éventuellement. Alors, justement, on parlait de la montagne tout à l'heure. Donc, j'ai la chance pour le bateau et la mer d'avoir aussi ce partenaire Coten qui m'habille. Et pour la montagne, là, par contre. J'ai peut-être voilà des tenues plus montagne que j'ai pas forcément, qui sont pas forcément les habits les habits voiles, ou sur lequel TBS a pas forcément des produits techniques adaptés. Donc je pense que le dernier vêtement que j'ai pu acheter, ça doit être vêtements de montagne.
Alors toi qui es souvent sur l'océan, on voit ce qui se passe en ce moment avec le plastique notamment. Est-ce que tu fais attention à tes achats, c'est-à-dire qu'à acheter, t'achètes des vêtements bio, green, tu fais attention à ça ?
Oui, clairement, oui, et de plus en plus. Ça a toujours, moi, j'ai toujours eu, toujours fait attention à ça. D'une manière générale, et je pense que la première chose à se poser comme question, c'est est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Et c'est là où parfois la mode me dépasse un petit peu, dans le sens où pour moi un vêtement doit être un vêtement qu'on aime et qui tient. Voilà, quelque chose qui va devenir juste pour des problématiques esthétiques, ou des qui va devenir dépassé alors que le produit en lui-même fonctionne toujours. Ça c'est quelque chose qui me choque, ou qui me va pas. Donc moi les vêtements, j'ai des vêtements chez moi qui ont 15 ans. Je pense que j'ai certains vêtements que j'avais quand j'étais au lycée. S'ils tiennent toujours, qu'il n'y a pas de trous.
Et tu les portes ?
Je les porte. Et je pense que c'est déjà quelque part un premier. Enfin voilà, je ne vais pas jeter des vêtements uniquement parce qu'ils ne me plaisent plus. Pour moi, voilà, quand tu choisis un vêtement, bah, j'espère qu'il va te plaire très longtemps et t'espères qu'il va te tenir très longtemps. C'est premier point. Et après, évidemment, je pense que les vêtements doivent être dans une logique de conception, de construction qui est la plus écologique possible. Encore une fois, j'ai la chance d'avoir un partenaire, mes deux partenaires d'ailleurs, vêtements, que ce soit TBS ou Coten, qui fabriquent essentiellement, qui reste quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans ce secteur-là, qui construisent quasiment entièrement, exclusivement en France, ce que je trouve déjà super, parce que c'est, je trouve que c'est important.
Tu pourrais pas être partenaire avec H&M, j'imagine. Tu refuserais.
Je pense que ce qui est important quand t'as des partenariats, c'est d'être en phase avec eux, parce qu'à un moment donné, quand on a des partenaires, surtout partenaires sur le long terme, à un moment donné, on faut être en phase en fait avec tout ça. Et c'est vrai que j'aurais du mal. Faut jamais dire jamais, encore une fois, parce que voilà, il peut y avoir des bonnes raisons, parce que certaines marques qui vont peut-être.
Quand je dis H&M, mais là ils sont en train de faire un effort sur les produits recyclables. Mais
donc voilà, j'en sais rien, mais en tout cas ce dont je suis fier, c'est aujourd'hui de porter sur moi des vêtements qui ont un petit peu moins voyagé que d'autres vêtements, qui, je l'espère, ont pas forcément, parce que même s'il y a probablement de la matière première qui a dû traverser des océans, qui a dû faire du conteneur, etc. J'ai des vêtements qui ont été fabriqués en France, et ça, j'en suis fier. Je trouve que c'est important, parce que on fait face aujourd'hui à une problématique écologique qui est majeure. C'est une crise qu'on est en train de vivre, de traverser, et il faut faire face à ça. Et je pense, c'est pas pour faire du protectionnisme français, c'est pas juste parce que je veux pas que ce soit d'autres pays.
Non, c'est pour notre planète,
juste
en fait.
Parce que aujourd'hui, un produit qui est fait en France, un vêtement qui est fait en France, a priori, a un petit peu moins voyagé que des vêtements qui vont être cousus en Chine, braguetés aux États-Unis ou je ne sais où, et qui vont faire des dizaines de milliers de kilomètres avant d'être sur soi. Ça peut pas marcher, ça peut pas fonctionner. Enfin, on fonctionne malheureusement comme ça depuis quelques années, mais on sait que on peut pas fonctionner comme ça éperdument. Et du coup, voilà, je reste persuadé que les circuits courts, ça reste une solution. C'est pas la seule, mais ça reste une solution. Et je suis fier d'avoir des vêtements qui n'ont pas fait trop de chemin, et qui du coup arrivent directement de quelques dizaines ou centaines de kilomètres, mais qui sont fabriqués en France.
Qu'est-ce qu'une femme élégante pour toi ?
Une femme élégante, c'est une femme qui. Alors, il y a une forme de beauté dans l'élégance, mais pas que, parce qu'on peut. Et la beauté reste un critère très subjectif. L'élégance aussi, d'ailleurs, probablement. C'est une posture. Enfin, j'ai envie de dire, c'est une façon de se tenir dans le sens de se comporter, de parce que l'élégance peut être esthétique. Enfin voilà, s'il n'y avait pas le son, pas l'image, s'il n'y avait que l'image, on pourrait parler déjà d'une forme d'élégance. Mais après, ça va être dans le comportement, dans la façon justement de.
Ça passe pas forcément par le vêtement, des talons de 12 cm et un tailleur moulant.
Non, je pense que c'est dans la façon de. D'agir, de parler, de se positionner. C'est assez global. Mais ça peut aussi passer par une forme d'esthétique, puisque comme on en parlait tout à l'heure, il y a un rapport social avec le vêtement. Donc on peut pas le négliger complètement. Mmh. Ce qui veut pas dire qu'on peut pas être élégant sans accorder de l'importance à la façon dont on s'habille. Peut-être une forme d'élégance, de se concentrer sur des choses, d'autres choses. Peut-être que d'autres choses peuvent être plus essentielles. Mais il n'y a pas que ça. Peut-être que c'est ça. Je trouve que c'est pas mal, finalement. L'élégance, c'est d'arriver, peut-être, hein, parce que je ne suis pas sûr d'avoir une définition, mais c'est peut-être d'accorder les. De mettre en fait une forme de priorité dans les choses qui nous entourent.
C'est-à-dire
Je pense par exemple que dans certains moments, accorder trop d'importance à ses vêtements peut être en fait
inélégant.
Stupide et inélégant. Et porter de l'importance pour les choses qui sont vraiment importantes. Et encore une fois, les vêtements peuvent l'être. Par exemple, il y a des événements sociaux qui fait qu'on s'habille d'une certaine façon, et c'est normal. Mmh. Et donc, c'est aussi du respect pour l'autre de respecter certains codes ou de vouloir exprimer certaines différences, etc. Donc, c'est une forme d'élégance. Et je pense à ça parce que je pense par exemple aux mères de famille. Et j'ai des enfants et je vois justement par exemple ma femme ou mes sœurs, mères, enfin bref les mères ou pères de famille autour de soi ou parfois quand on a des enfants, des jeunes enfants, on n'a pas forcément le temps on va pas forcément accorder une importance extraordinaire à la façon dont on est habillé. Mais pour moi, l'élégance d'un père ou d'une mère de famille, c'est de s'occuper de ses enfants. Mmh. Et du coup, une mère ou un père de famille, je pense que c'est bien de pas faire de différence, là-dessus, a une forme d'élégance assez extraordinaire quand elle va s'occuper de, ou il va s'occuper de ses enfants. Et je pense à ça parce que, donc j'ai des jeunes enfants, j'ai deux garçons parfois quand on arrive le matin quand on a ces enfants qui sont dans les bras, qui quand ils ont quelques mois parfois laissent des petites traces sur les épaules de jeunes parents, c'est pas forcément inélégant, c'est juste que voilà, c'est une personne qui était avec ses enfants le matin même, une maman ou un papa qui était avec ses enfants, qui a peut-être pas forcément eu ni le temps ni le accorder de l'importance à changer son vêtement parce que voilà la vie fait que on se et pour moi il y a une forme d'élégance de s'occuper de ses enfants plutôt que de s'occuper de ses vêtements dans ce contexte-là, ce qui veut pas dire qu'il faut toujours s'habiller avec des vêtements tachés, hein, c'est pas le sujet, mais je trouve que c'est une forme d'élégance d'arriver de l'accepter et de mettre les priorités aux bons endroits.
Si tout le monde répond à cette question dans Chiffon, la définition de l'élégance, c'est ça en fait.
Oui, enfin c'est une définition parmi d'autres, hein, et je pense que
ta définition.
Ouais, c'est ma définition aujourd'hui. Voilà, l'élégance quelque part, je trouve qu'il y a une forme aussi de cohérence. Faut être cohérent avec soi-même. Et je pense qu'une personne qui est élégante, une femme, parce que la question était portée sur une femme élégante, et quelqu'un qui est cohérent avec soi-même, qui du coup va s'habiller en cohérence avec soi-même et qui est bien en fait. Et il y a une nécessité finalement d'être bien avec soi, d'être bien avec ses vêtements, d'être bien avec l'image qu'on véhicule, d'être bien avec l'entourage, l'environnement dans lequel on est. Et je pense que c'est ça le... Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est ça l'élégance, mais c'est une condition nécessaire pour être élégant, je suppose.
À interview exceptionnelle, question exceptionnelle. Donc, comme j'ai pu te le dire, j'ai quelques questions posées par les auditrices de Chiffon. Samantha te demande, peut-on être élégant sur un bateau ?
Oui, j'espère. J'espère, je pense qu'on peut être élégant. Je parlais, alors, si la définition de l'élégance que je donnais à l'instant, c'était une forme de cohérence, de... voilà, moi je me sens bien sur un bateau. Je me sens là où je dois être. Et donc justement, je trouve qu'une belle manœuvre. Je parlais beaucoup d'efficacité parce que je suis un sportif et je suis en recherche de performance. Mais quelque part, cette efficacité, cette performance a une forme d'élégance. Je crois et j'espère être élégant sur un bateau.
Marie te demande, le plus utile pour une traversée de plusieurs semaines, le kawaii ou le pyjama ?
Les deux, le kawaii pour rester au sec et le pyjama pour avoir chaud. Mais on n'a pas vraiment
dit kawaii,
le pyjama c'est ciré, voilà. Non, c'est juste la sous-couche, comme je disais tout à l'heure, dans les courses que je fais en compétition, c'est vrai qu'on a des contraintes techniques qui font qu'on ne peut pas vraiment changer. Après, encore une fois, il y a heureusement beaucoup de personnes qui font du bateau à d'autres vitesses. Et je le fais aussi, et j'en suis ravi. Je ne le fais pas assez, mais j'aime vivre en mer, j'aime la croisière, j'aime passer du temps en mer. Et c'est aussi bien de pouvoir s'habiller avec certains codes qui sont plus terrestres, mais voilà, on a le droit de mettre un pyjama. Enfin, moi, je mets pas de pyjama, ceci dit jamais, mais on a le droit d'avoir ces codes un peu plus terrestres quand on est sur un bateau.
Caroline te demande, François, pour vous, l'élégance rime avec ?
Cohérence.
Hélène te demande, quel est le vêtement que tu aimes voir porter sur une femme ?
Le vêtement... Pour cette notion d'élégance, de cohérence, je pense qu'un vêtement, c'est un vêtement dans lequel on se sent bien.
Astrid, quel est le vêtement que tu préfères retrouver après avoir passé du temps en mer ?
Après avoir passé du temps en mer, c'est le vêtement propre. c'est assez bête, mais le vêtement propre est
qui très, sent bon très la lessive.
Est très très agréable, très très agréable.
Clémentine, la tenue dans laquelle tu te sens le mieux ?
La tenue dans laquelle je me sens le mieux, pour rester dans le domaine maritime, c'est probablement cette tenue-là, cette tenue
de marin.
De marin, ouais, parce que finalement, c'est là où je passe pas mal de temps et c'est là où je me sens bien, parce que si je suis avec mes bottes, avec mon ciré, c'est que quelque part je vais faire du bateau et ça, j'aime plutôt.
Et là, t'es content.
J'aime beaucoup, ouais, je suis content.
Manon. Quel est ton plat préféré et comment t'habillerais-tu face à ce plat ?
Alors, mon plat préféré, j'en ai pas mal.
La frange gab de chez Marie.
Ah, la frange gab de chez Marie, c'est vrai que la frange gab, elle passe pas mal. Et donc, comment on va s'habiller chez Marie ? C'est très classique, on vient, je crois que c'est un slogan d'un autre restaurant, mais que j'ai pas envie de citer ici. Mais voilà, on vient comme on se sent bien.
Et quoi, ton plat préféré ?
Mon plat préféré, il y a un plat
pour satisfaire Manon.
Ouais, il y a un plat que j'aime beaucoup, c'est la lotte à l'américaine. C'est un plat familial, enfin c'est ma grand-mère, mon père, mon oncle qui font ça à merveille. Et c'est marrant parce que c'est un plat que j'essaie depuis des années de... Je leur demande, j'essaie de suivre la recette, mais je suis assez mauvais pour suivre la recette, donc j'en fais toujours qu'à ma tête, j'essaie toujours de rajouter une petite touche personnelle. Et en l'occurrence, pour celui-là, ça, c'est un petit peu compliqué, donc, mais voilà, la lotte à l'américaine, j'aime beaucoup.
Ça, t'as beaucoup de chance, en plus, la lotte, elle vient directement de l'eau. Nous, elle passe par Rungis ici.
C'est vrai que justement, dans ces histoires de chaînes courtes, on a la chance qu'on habite près de la mer d'arriver à avoir des produits frais. Et ça, c'est peut-être le plus important.
Alors, petite question qui a été récurrente et qui est revenue très souvent. Hormis les demandes de ton numéro de téléphone, Marie-Andrieux me demande, te demande, pardon, veux-tu m'épouser ?
Non, parce que je suis marié déjà, et je suis très heureux comme ça.
Tu vas lui briser, tu vas lui briser le cœur.
Désolé, désolé.
Bon, pour finir, un petit questionnaire très rapide, tu as le droit à une seule réponse.
D'accord.
Si tu étais une couleur ?
Bleu.
Lequel ?
Bleu marine.
Si tu étais une chaussure ?
Course à pied.
Des chaussures de course ?
Ouais.
Pas des bottes ?
Non, la course à pied. Parce que finalement, la botte, elle est souvent dans l'eau quand même.
D'ailleurs, sur le bateau, t'es tout le temps en botte ?
Pas tout le temps. Alors là,
parce que ça doit être... J'imagine que c'est lourd. Hein.
C'est lourd. Alors là, je vais faire un chiffon. Enfin, on parlait d'esthétique. Et on a quelque chose qui est horrible à bord d'un bateau, mais qui marche, qui fonctionne tellement bien. C'est la Crocs. On met des Crocs.
Ah ! Oh, le mythe. La faute de goût, mon Dieu.
La faute de goût terrible. Mais je suis désolé, on a testé plein de choses, etc. Mais
Pourquoi ? Parce que ça s'accroche.
Mais en fait, ça marche super bien. Ça tient chaud aux pieds quand il fait froid. Ça tient frais quand il fait chaud. Ça tient très très bien au pont du bateau, c'est hyper léger, ça sèche en 2 secondes. J'ai pas trouvé mieux. Et par contre, alors là, je suis d'accord, c'est particulièrement moche. Mais là, pour le moment, j'ai pas trouvé mieux.
Si tu étais un parfum, une odeur.
Alors c'est différent. Parce que, alors le parfum, mon parfum, c'est assez marrant d'ailleurs parce que c'est. Je ne sais même plus le nom, mais de Chanel, c'est bleu. C'est
bleu,
ça, bleu
de Chanel.
Bleu de Chanel, hein, c'est bien ça.
Mm-hmm. T'es totalement cohérent, toi.
Mais, ouais, là, j'ai une cohérence par rapport aux questions précédentes. Mais ce n'est pas volontaire, mais j'aime bien. Et après, alors, si c'est une odeur, l'odeur de la terre, quand on est sur l'eau et qu'on a été sur l'eau longtemps, c'est quelque chose d'assez assez génial. Parce qu'en fait, on est dans un milieu qui est... au niveau odeur, au niveau olfactif, il n'y a pas grand chose qui se passe quand on est au milieu de l'océan. Et quand on arrive dans des coins comme les îles, par exemple les Antilles. Mmh. Donc vous imaginez, on est dans ce milieu où il n'y a pas d'odeur. Et puis quand on arrive, quand on va faire le tour du Nil, on se retrouve justement, il y a plein d'odeurs qui vont descendre de l'île. C'est assez fort. Ou même quand on arrive en Corse, par exemple, si on va en Corse en bateau, dès qu'il y a du vent qui vient de la terre, ça fait descendre des odeurs. Qui ont vraiment quelque chose de particulier. Et ça, donc les odeurs de la terre, quand on arrive en mer, après plusieurs jours ou plusieurs semaines de mer, c'est assez, assez fabuleux. Et je le recommande à ceux ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire. Aller faire du bateau rien que pour ça, ça vaut le coup.
Si tu étais un pull ?
Un pull, je serais un pull doux. Doux et
confortable.
Chaud et confortable.
Si tu étais une femme ?
Si j'étais une femme, très bonne question. Si j'étais une femme, je serais qui ? Je sais pas. Est-ce que c'est une bonne question. Ça me laisse sans voix. Si j'étais une femme, j'essaierais d'être moi, François.
Françoise.
En mode féminin. Je pense que ça serait. J'essaierais de faire du mieux possible avec ça.
Quelle est ton idole ?
J'ai pas d'idole, j'en ai plein. Et voilà, justement, pas un peu en rebond avec la question précédente, je pense qu'il faut s'inspirer de plein de personnes, parce qu'il y a plein de personnes qui font des choses éminemment extraordinaires sur la planète. Et par contre, je pense que si on s'accroche qu'à une seule personne, on n'arrive pas à trouver soit son chemin et ce pourquoi on est fait. Donc je pense que c'est important d'avoir des idoles, des inspirations, parce qu'évidemment c'est important, ça motive, ça pousse, ça donne des idées, ça encourage. Mais il faut pas qu'il y en ait qu'une, sinon ça nous amène un peu dans un chemin qui est pas le nôtre en fait. Donc faut essayer de faire son propre chemin.
Et d'être soi. Pour finir, quelle est ta prochaine course ?
Prochaine course, c'est une course qui s'appelle Brest Atlantique, qui va partir donc au mois de novembre de Brest, comme on l'a dit, qui va nous faire un joli triangle, parce qu'on va aller naviguer jusqu'au large du Brésil, Brésil, Afrique du Sud et retour à Brest.
Ça va prendre combien de temps 2019,
quasiment, c'est une grande course, ça va presque prendre un mois. Enfin, un joli petit tour. Ouais.
Merci infiniment, François.
Merci beaucoup.
Je tiens à remercier aussi les partenaires de cet épisode, DIM, ainsi que le magazine Gradvia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.